VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 2 octobre 2015, en direct de Washington, Idrissa Seroulia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Burkina Faso, soulagement des mouvements des droits de l'homme après la reddition de l'ex-chef des putschistes du 17 septembre.
En Guinée, l'opposition a réclamé hier le report d'une semaine de la présidentielle du 11 octobre.
En République centrafricaine, un report du référendum puis du scrutin présidentiel du 18 octobre devrait être bientôt annoncé.
Au Nigeria, une série d'explosions a été signalée hier soir à Maïdougouri, dans le nord-est du pays, en proie à l'insurrection de Boko Haram.
Ici aux États-Unis, colère du président Barack Obama face aux fusillades devenues une routine après le meurtre de 10 personnes dans une université de l'Oregon.
La Russie assure une nouvelle fois qu'elle prend elle aussi pour cible les groupes djihadistes. Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Le général Gilbert Diendéré, auteur du coup d'État avorté du 17 septembre, s'est rendu jeudi aux autorités et se trouve désormais dans un camp de gendarmerie de Ouagadougou, dans ce qui semble être l'épilogue de la crise qui a secoué le Burkina Faso. Il s'est rendu jeudi après-midi, sortant de lui-même de la résidence du nonce apostolique où il s'était réfugié mardi, peu avant l'attaque sur la caserne où étaient retranchés les derniers éléments de l'unité putschiste régiment de sécurité présidentielle. Ce très proche de l'ex-président Blaise Compaoré dépend désormais de la justice militaire qui sera en charge du dossier, a-t-on appris de sources judiciaires.
Et puis le vice-président de la rébellion Touareg, Mouvement national de libération de l'Azawad, Mahamadou Djeri Maïga, a été brièvement interpellé jeudi à l'aéroport de Ouagadougou alors qu'il tentait de quitter le pays. Mahamadou Djeri Maïga a été arrêté sur des allégations qui portent à croire qu'il allait fournir un appui logistique au putsch, a affirmé à l'AFP une source militaire. De nombreux membres de la rébellion Touareg, actifs dans le nord du Mali, habitent ou passent fréquemment à Ouagadougou.
Le trafic de drogue est un problème majeur qui nourrit le conflit et entrave l'application du processus de paix au Mali, a estimé jeudi le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est vraiment un problème majeur car il nourrit le conflit, finance les organisations terroristes et déstabilise le pays, a déclaré M. Diop à l'issue d'une rencontre consacrée au Mali à l'ONU. Nous devons combattre également les terroristes et les narcotrafiquants, sinon nous ne réussirons pas à avoir une paix durable au Mali, a-t-il ajouté.
En Guinée, l'opposition a réclamé jeudi le report au moins pour une semaine du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 11 octobre, arguant de problèmes absolument sérieux risquant d'entacher le scrutin. Cet appel a été lancé lors d'une conférence de presse d'Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition, à l'issue d'une réunion sur l'état des préparatifs du scrutin. Il a affirmé s'exprimer au nom de tous les candidats, 7 au total, en lice contre le président Alpha Condé, élu en novembre 2010, investi le 21 décembre 2010 et qui brigue un second mandat. On s'est rendu compte qu'il y a des problèmes absolument sérieux qui, s'ils n'étaient pas résolus assez rapidement, compromettraient la qualité, la transparence et la crédibilité du scrutin du 11 octobre et pourraient même amener les candidats de l'opposition à se retirer du processus électoral, a affirmé M. Sylla.
Une série d'explosions s'est produite jeudi soir dans la ville de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, en proie à l'insurrection de Boko Haram, faisant craindre des victimes, ont rapporté des habitants et la police. Le nombre exact d'explosions dans la capitale de l'État de Borno n'était pas connu dans l'immédiat. Selon un policier, au moins 7 déflagrations ont retenti et des habitants ont fait état d'au moins 2 bombes attachées à des adolescentes. Les islamistes de Boko Haram ont de plus en plus recours aux attentats suicides pour frapper la population civile, y compris à Maïdougouri, où au moins 117 personnes ont trouvé la mort le 20 septembre dans une vague d'attentats.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, un jeune homme de 26 ans a tué jeudi 10 personnes sur un campus universitaire de l'Oregon, provoquant la stupeur des Américains et la colère du président Barack Obama face aux fusillades devenues une routine aux États-Unis. Les précisions d'Henri Francisque.
Pour l'instant, nous pouvons confirmer 10 morts et 7 blessés dans la fusillade, a déclaré le shérif du comté local, John Hanlon, lors d'une conférence de presse, sans préciser si le tireur qui est mort lors d'échanges de tirs avec la police faisait partie de ce bilan. De premières informations avaient fait état d'une vingtaine de blessés. Alertés en milieu de matinée, les policiers ont localisé le suspect en arrivant sur le campus. Il y a eu un échange de coups de feu, a précisé le shérif. Il s'agirait d'un certain Chris Harper Mercer, un jeune homme de 26 ans, selon CBS News. Selon une survivante, il a demandé à chaque étudiant de décliner sa religion, puis a ouvert le feu sur toute la classe. Mais les enquêteurs sont convaincus qu'il s'agit d'un cas de terrorisme interne, sans aucun lien avec des groupes internationaux. Le président américain Barack Obama a dit jeudi sa tristesse et sa colère face à des fusillades devenues une routine aux États-Unis, appelant une nouvelle fois le Congrès à légiférer pour mieux encadrer l'utilisation des armes à feu. « Nos pensées et nos prières ne sont pas suffisantes », a lancé M. Obama, le visage fermé, quelques heures après la fusillade à l'Université de l'Oregon. « D'une certaine manière, cela est devenu une routine », a-t-il ajouté. « La couverture médiatique est devenue une routine. Ma réponse ici au podium a fini par devenir une routine. Et la réponse de ceux qui s'opposent à toute loi de bon sens sur les armes est devenue elle aussi une routine. L'idée selon laquelle la violence par les armes serait d'une nature différente, que notre liberté et notre constitution nous empêchent de légiférer, même modestement, sur la façon dont nous utilisons ces armes à feu, cela n'a aucun sens », a-t-il lancé. Prenant les Américains à partie, M. Obama a appelé ces derniers à demander des comptes à leurs élus sur ce thème. À chaque fois qu'un drame comme celui-ci se produira, je répéterai que nous pouvons y faire quelque chose, que nous devons changer nos lois, a-t-il conclu.
Intervention russe en Syrie. La Russie assure une nouvelle fois qu'elle prend elle aussi pour cible les groupes djihadistes. Les précisions de Michel Joseph.
S'exprimant jeudi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a réitéré que son pays vise en Syrie le groupe État islamique, le front al-Nusra, ainsi que le fait la coalition menée par les États-Unis. « Nous sommes sur la même longueur d'onde que la coalition sur ce point », a-t-il souligné. En ce qui concerne l'Irak, la Russie n'entend pas étendre ses frappes aériennes dans ce pays, car elle n'y a pas été invitée, a fait savoir le ministre russe des Affaires étrangères. Interrogé à son tour pour savoir si Washington et Moscou étaient d'accord sur les cibles des bombardements en Syrie, le secrétaire d'État John Kerry a répondu « Dans le concept, mais nous n'en sommes pas encore là pour garantir la sûreté, la sécurité et le partage des responsabilités. » Une référence aux discussions militaires qui ont commencé jeudi entre les deux pays. L'opposition syrienne et Washington avaient mis en doute mercredi les cibles des frappes russes, laissant entendre qu'elles avaient pour but principal de renforcer le régime syrien et non de combattre l'EI.
La crise des migrants continue de faire couler beaucoup d'encre avec ce nouveau chiffre publié jeudi par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Selon la HCR, 700 000 migrants chercheront refuge en Europe cette année via la Méditerranée et ils seront au moins aussi nombreux en 2016. Les détails de ce rapport avec Salwa Jafari.
C'est un chiffre qui fait peur, pratiquement le double de ce que le HCR avait prévu il y a quelques mois. 700 000, et il ne s'agit là que des migrants traversant la Méditerranée. L'ONU espère, chiffre à l'appui, convaincre la communauté internationale de se faire preuve de plus de générosité. Dans ce rapport, un plan pour une réponse d'urgence à cet afflux de migrants. Le HCR demande pour ses opérations dans la zone plus de 77 millions de dollars supplémentaires à sa demande initiale présentée le 8 septembre. Le budget total qu'il cherche à recueillir pour cette opération s'élève désormais à 128 millions de dollars. Avec ce plan, le HCR se fixe trois objectifs. Sauver des vies et répondre aux besoins humanitaires dans les points de transit, de première arrivée, de destination. Renforcer les systèmes de protection en augmentant les capacités dans la corne de l'Afrique, l'Afrique du Nord et en Europe. Enfin, améliorer la disponibilité de sécurité et de solutions pour les réfugiés. Depuis le 1er janvier, un total de plus de 520 000 arrivées via la Méditerranée ont été enregistrées, dont plus de 387 000 en Grèce et 131 000 en Italie. Selon les derniers chiffres mis à jour par l'agence onusienne, 18% d'entre eux sont des enfants et 13% des femmes.
Et maintenant, la Minute Éco avec Anastasie Toudièche.
Le Sénégal produira bientôt ses propres flacons de solutions de perfusion. La BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement, et le Fonds Souverain d'Investissement Stratégique du Sénégal, Fonds 6SA, ont signé le 28 septembre à Dakar une convention de prêt de 2,5 milliards de francs CFA qui financeront pour partie la construction de l'unité industrielle pharmaceutique dans la région de Thiès. Démarrage des travaux novembre prochain. Les premiers flacons de solution de perfusion sont attendus pour 2017, avec une production espérée de 12 millions d'unités destinées aux hôpitaux de la région et de la sous-région. Prospérité paradoxale pour Jumia. Au premier semestre, le site de vente en ligne, créé en 2012 et actif dans 11 pays africains, a annoncé avoir engrangé au premier semestre plus de revenus qu'au cours de toute l'année 2014, soit un total de 75,8 millions d'euros. Mais dans le même temps, le site annonce des pertes opérationnelles deux fois plus importantes que l'année dernière, d'un montant de 48,7 millions d'euros. Jumia fait régulièrement appel à ses actionnaires, parmi lesquels les opérateurs télécoms MTN et Millicom, qui avait déjà injecté 120 millions d'euros en novembre dernier. La direction de Jumia n'a pas précisé comment pertes et revenus se répartissaient sur le continent. La BEI, Banque européenne d'investissement, a annoncé un investissement de 30 millions d'euros dans la section Afrique de Meridiam, investisseur français privé spécialisé dans le financement d'infrastructures publiques en Europe et en Amérique du Nord. La BEI a, en 2014, apporté 2,5 milliards d'euros pour soutenir des infrastructures et le secteur privé en Afrique.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Afrobasket 2015 à Yaoundé, on connaît le dernier carré.
Doublé ouest africain avec le Sénégal et le Nigeria qui seront en demi-finale, tout comme le pays organisateur, le Cameroun. On écoute tout de suite notre envoyé spécial sur place à Yaoundé, Amdinsi.
L'Angola, double tenante du titre, le Cameroun, pays organisateur, le Nigeria et le Sénégal ont composté leur ticket pour les demi-finales de l'Afrobasket 2015 à l'issue des quarts de finale qui se sont déroulés au Palais des Sports de Yaoundé. L'équipe du pays hôte, seule formation invaincue, s'est imposée facilement face à l'Égypte sur le score de 76 à 54. Le Nigeria a écarté le Mozambique par 71-66. Le Sénégal a remporté le derby de l'Afrique de l'Ouest en dominant le Mali par 57 à 38. L'Angola, pour sa part, a écarté le Gabon, score de la rencontre 57 à 44 ce vendredi. Les demi-finales opposeront le Nigeria au Cameroun et le Sénégal à l'Angola. Cette dernière confrontation n'est autre que le remake de la finale 2011 remportée par les Angolaises. Un parfum de revanche plane sur cette rencontre Sénégal-Angola. Amédine-Si, Yaoundé, VOA Afrique.
L'Europa League, c'était hier soir, la deuxième journée.
C'est le statu quo dans le groupe A où les quatre équipes se sont neutralisées. Grâce à un doublé en 5 minutes de Fernandão, Fenerbahçe, rapidement mené 2-0, est allé chercher un bon match nul à Glasgow face au Celtic. Dans le même temps, l'Ajax Amsterdam n'a pas fait mieux en Norvège contre le club de Molde, un but partout. Dortmund, sans Pierre-Emerick Aubameyang, laissé au repos, a été accroché à Chypre par le PAOK Salonique, un but partout. Il garde néanmoins les commandes de sa poule devant le FC Krasnodar, tombé à Kabala, 2-1. Dans la lignée de la première journée, Naples a confirmé son bon démarrage avec une deuxième victoire acquise en Pologne face au Lechia Varsovie, 2-0. En tête, Naples ne devance toutefois le MC Nimtiland qu'à la différence de but puisque le club danois a encore gagné en Belgique contre le FC Bruges, 3-1. Villarreal a obtenu une courte victoire contre les Tchèques du Vykotira Plzeň, 1-0. Le leader de la Liga se relance complètement après son mauvais départ et remonte à la deuxième place du groupe E derrière le Rapid de Vienne qui a enchaîné avec un deuxième succès consécutif obtenu en Biélorussie face au Dynamo de Minsk, 1-0.
Du soutien pour Michel Platini.
Et Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a indiqué qu'il croyait à l'intégrité de Michel Platini, président de l'UEFA, entendu, vous le savez, par la justice suisse la semaine dernière en qualité de témoin assisté pour un versement de 2 millions de francs suisses par la FIFA. On rappelle que le même Michel Platini est candidat pour la présidence de la FIFA. Ce sera en février prochain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'arrestation du général Gilbert Diendéré est un soulagement pour les mouvements des droits de l'homme. Les RSP ayant souvent été cités dans des affaires de meurtres non élucidés, comme l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Alidou Ouédraogo a dirigé pendant longtemps le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Au micro de Bagassi Koura, il se prononce sur l'arrestation de Gilbert Diendéré.
Le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques que je conduisais dans les années 98 avait demandé le démantèlement du RSP. Nous n'avons pas été entendus. Ça a suivi une querelle de demande à cet effet. Le RSP était une armée dans l'armée. Et il y avait beaucoup de reproches qui étaient faits à propos de ses membres. À cette époque, c'était des disparitions forcées, c'était des assassinats, c'était des tortures, c'était une série de meurtres. Et c'était un bâillonnement des libertés. Et en fait, le maître d'œuvre, c'était le RSP. Nous avons publié des informations, attiré l'attention sur le comportement de cette unité, vainement et pendant longtemps. Ils se sont comportés comme des intouchables jusqu'à ce qu'effectivement, la question soit reposée cette année.
Est-ce que vous avez pensé à un moment donné que cette période-là allait arriver de sitôt, la disparition totale
oui,
du RSP?
Oui, je pense bien parce qu'en fait, il y a un éveil de conscience au niveau de notre peuple. Si vous voyez comment le peuple burkinabé a refusé la médiation de la CEDEAO, qui n'était pas une médiation, il nous faisait des propositions inacceptables venant de chefs d'État qui ne sont pas vraiment crédibles parce qu'en fait, ils ont eu à vivre les mêmes situations dans leur pays. Et donc, à partir de ce moment, ça n'a pas été possible d'accepter tout cela.
Eh bien, c'était Alidou, maître Alidou Ouédraogo, au micro de Bagassi Koura. Pour sa part, notre correspondant sur place, Zoumana Wonogo, s'est promené à micro ouvert dans les rues de Ouagadougou pour recueillir les impressions et réactions de la population.
Je suis Madame Ouédraogo. Je pense que c'est une bonne affaire qu'on ait arrêté le général Diendéré. Un seul individu ne peut pas stresser tout le peuple de Burkina Faso. Et j'avoue que tout le monde avait une peur bleue au ventre. On ne savait que faire. On avait peur pour nos enfants, pour nos maris, pour nous-mêmes. Pour nos familles.
Moi, je suis Ouédraogo Kassoum. Je n'aimais pas la transition depuis la mer arrêtée Diendéré. Je suis vraiment content. Si on a pu chasser le lion, on devait chasser le lionceau aussi. Mais on a laissé les lionceaux, c'est eux qui nous créent des problèmes à l'heure. C'est ça que je n'étais pas content d'eux. Mais aujourd'hui, je suis tellement fier d'eux et je veux même qu'il n'y ait plus d'élections qui vont continuer. La transition n'a qu'à continuer jusqu'à Oulala. Je suis vraiment fier d'eux et puis nos braves soldats.
Je m'appelle Georges Koulibaly. Le dernier coup de balai vient d'être donné justement sur le bras armé de cette félonie qui nous a gouverné pendant 27 ans. Diendéré, il va aux oubliettes en même temps que Blaise Compaoré, en même temps que un certain nombre de généraux félons qui étaient dans tous les trafics mafieux et qui incriminaient le Burkina à l'échelle internationale. Je pense que notre pays, à partir de maintenant, sera un pays honnête, non un État voyou.
Diffama Danis, comme on l'a attrapé là, nous tous on peut travailler maintenant. Il nous a rendu beaucoup de pertes, même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes. On ne peut pas vendre la viande, on ne peut même pas sortir. C'est si tellement content ce soir-là même.
Amine Kangwe, non, je suis très content parce qu'on a arrêté le golf, comme on l'appelle, parce qu'il a semé la terreur et la zizanie au Burkina Faso. Et je pense que cette fois-ci, comme on l'a arrêté, le pays va être calme et on va vacquer à nos occupations.
Monsieur Traoré, bref, hein, je pouvais tuer un mouton, même j'allais tuer un mouton pour fêter ça. Il méritait ça. L'arrestation, là, c'est logique. Bon, effectivement, il a fait beaucoup de mauvaises choses. Vous voyez, il y a eu trop d'assassinats sur le règne de Blaise Compaoré. Donc, vraiment, il méritait ça. En tout cas, vraiment, je tire mon chapeau à la transition.
Moi, c'est Laurent Ouédraogo. Mes félicitations au gouvernement de la transition pour l'arrestation de Gilbert Diendéré. En tout cas, je suis content. Ça apporte la paix dans ce pays. Vraiment, après le départ de Blaise, bon, c'était un pion de l'ancien chef. Il devait partir en ce moment. Je ne sais pas comment ils l'ont gardé jusqu'à aujourd'hui.
Je suis Georges, je suis assistant. Je suis très content par rapport à l'arrestation du général Gilbert Diendéré. Il avait bel et bien lui-même eu à affirmer qu'il allait faire face à la justice. Eh bien, bon, l'occasion lui est donnée de vraiment faire face à la justice. Et je pense que nous aurons beaucoup à apprendre à travers ce procès si vraiment les choses doivent être faites équitablement et qu'on lui donne l'occasion de s'exprimer.
C'était quelques réactions de Burkinabé recueillies par notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Une réunion internationale de haut niveau sur la République centrafricaine s'est tenue jeudi aux Nations Unies à New York. Le ministre centrafricain des Affaires étrangères, Samuel Rangba, qui y a pris part, s'est confié à la presse.
La rencontre de haut niveau sur la République centrafricaine avait pour but de remobiliser la communauté internationale afin de continuer à soutenir la République centrafricaine dans le processus de la transition et notamment l'amener à organiser les élections pour céder le pouvoir aux nouvelles autorités qui seront légitimement élues. Et ensuite, de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir le nouveau gouvernement qui sera mis en place après les élections, afin que la République centrafricaine puisse amorcer réellement la relance économique à partir de 2016.
Les événements récents démontrent qu'en fait, la stabilité au niveau du gouvernement, même au niveau de la transition, est encore difficile.
Disons que les derniers événements démontrent clairement que le processus est encore fragile et demande plus d'engagement de la communauté internationale au chevet de la RCA. Et nous avons pris bonne conscience, nos partenaires ont pris bonne conscience qu'il fallait faire encore plus pour pouvoir réellement endiguer la situation. Donc ces derniers événements, c'est un signal donné à tous les acteurs de paix, les acteurs du processus de transition, de comprendre qu'il faut faire plus que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui.
Ma toute dernière question, lors des discussions, avez-vous évoqué l'embargo des armes et notamment la levée de l'embargo ?
Évidemment, nous l'avons évoqué, parce que vous ne pouvez pas accompagner un État sans force nécessaire, force publique qui pourra rétablir l'autorité de l'État. Nous avons abordé cette question avec les partenaires et nous estimons qu'ils ont perçu le message et que dans les jours qui suivent, nous reprendrons la discussion avec le comité de sanctions pour voir quelles sont les modalités d'allègement de cet embargo. Nous sommes conscients que les armes ne doivent pas se retrouver entre les mains des bandits de grand chemin, entre les barbares, mais il y a un noyau de force régalienne, un noyau de force républicaine qui a répondu à l'appel de la présidente Catherine Samba-Panza, à qui on peut faire confiance et on fait confiance au gouvernement pour leur donner les moyens nécessaires de pouvoir rétablir la sécurité dans tout le pays aux côtés des forces internationales.
Monsieur le ministre, combien de temps ça prendra d'élargir le mandat de la MINUSCA et enfin de pouvoir tenir le calendrier électoral ?
Seule la MINUSCA et les Nations Unies pourront vous répondre à cette question.
Est-ce que vous leur avez demandé ?
Nous leur avons demandé. Et c'est à eux de vous répondre.
Ils vous ont donné quoi comme réponse ?
Il n'y a pas de réponse de mon côté, madame.
Madame Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale à New York, avec le ministre centrafricain des Affaires étrangères, Samuel Rangba. Centrafrique toujours, malgré les demandes de la communauté internationale de respecter le calendrier électoral, un report du référendum puis du scrutin présidentiel du 18 octobre devrait être bientôt annoncé. C'est ce que confirme Dieudonné Kombo Yaya, le président de l'Autorité nationale pour les élections. Ce nouveau report ne serait pas une surprise, tant les défis logistiques et sécuritaires sont nombreux pour ce scrutin. Près d'1,6 million Centrafricains se sont déjà enregistrés sur les listes électorales, mais des retards existent notamment dans les préfectures de la Lobaye et de la Vakaga. Le recensement électoral a pris du retard dans l'est du pays. Contacté par Nicolas Pinault, M. Dieudonné Kombo Yaya, président de l'Autorité nationale pour les élections.
Actuellement, il y a quelques difficultés. Certains secteurs, pas Vakaga, dans la Lobaye, vers le fleuve notamment, mais il y a des zones qui sont presque inaccessibles par voiture et nous entendons le faire par moto, par exemple, et par vélo, pour permettre à nos envoyés sociaux de procéder à l'enregistrement des électeurs. Nous n'avons pas encore terminé le recensement dans l'est du pays et dans certaines missions diplomatiques. Nous devons nous réunir et puis examiner toutes les conditions pratiques pour donner une idée de la période à laquelle nous allons démarrer le processus électoral, notamment le référendum constitutionnel. Un glissement est obligatoire.
Est-ce qu'on parle d'un glissement du calendrier électoral sur plusieurs semaines ?
Bien entendu, ce sera quelques semaines, mais en tout cas, dans une dizaine de jours, nous serons en mesure de dire le nouveau chronogramme. Mais en tout cas, c'est au niveau de l'Autorité nationale des élections de nous réunir pour examiner la situation, voir la faisabilité et à quel moment nous devons le nouveau chronogramme. C'est après cela que nous informerons les autorités de notre décision.
On a parlé des conditions techniques, mais la situation sécuritaire est-elle suffisante pour voter ?
Écoutez, vous avez suivi les événements qui sont déroulés à l'intérieur du pays et notamment à Bangui. Donc, il faut quand même un minimum de sécurité pour permettre aux candidats d'abord de faire campagne et puis aux membres du bureau de vote de travailler convenablement. Donc, il faut un minimum de sécurité et la sécurité ne relève pas de notre compétence.
Avez-vous le sentiment que les centrafricains ont envie d'aller aux urnes le plus tôt possible?
Je pense que nous sommes un peu fatigués de la situation actuelle et que le retour à la légalité constitutionnelle reste la priorité. Maintenant, pour faire la dégâté constitutionnelle, il faut des élections. Maintenant, pour aller aux élections, il faut des conditions minima. Et ça, c'est une priorité. Sinon, globalement, oui, bien sûr, nous voulons faire la population vers aux élections.
Monsieur Dieudonné Kombo Yaya, président de l'Autorité nationale centrafricaine pour les élections.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
En Mauritanie, au début du mois de septembre dernier, des rencontres préliminaires en vue d'un dialogue national inclusif ont été organisées pour résoudre la crise politique dans le pays. Le dialogue sur le fond aura lieu avant la fin du mois. Une partie de l'opposition, de la société civile et des syndicats regroupés au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité a boycotté ces préliminaires. Quelles sont les raisons de ce boycott? Qu'en pensent les partisans du pouvoir? Explication de notre correspondant à Nouakchott, Brahim Dia.
Le Forum national pour la démocratie et l'unité, FNDU, malgré une invitation formelle des autorités, a boycotté ce premier round du dialogue. Maître Djabira Maroufa, président du Forum.
Dans des contacts que nous avons eus avec le gouvernement, nous avons posé un certain nombre de demandes qui nous paraissent enfin, en tout cas, pouvoir établir un minimum de confiance. Nous avons demandé à ce que, dans les mesures de confiance, qu'il y ait la libération de tous les détenus de Pignon.
Maître Maroufa parle du président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, IRA, Biramoul Daoul Abeid, et son vice-président qui purge une peine de 2 ans de prison. Pour les autorités, ils sont de simples détenus de droit commun. Les soutiens du président de la République ne doutent pas de sa volonté d'entamer un dialogue avec l'opposition. Abdallahi Oul Hormatallah, membre du Conseil national de l'Union pour la République, IPR, parti au pouvoir.
Le président de la République s'est engagé à plusieurs reprises à encourager le dialogue et à appliquer les conclusions des différents dialogues.
Parmi les mesures de rétablissement de la confiance demandées par le FNDU avant l'entame du dialogue, figure l'intégration du bataillon chargé de la sécurité présidentielle, BASEP, dans le corps des forces armées. Maître Djabira Maroufa.
Nous avons demandé à ce que, effectivement, un instrument de pouvoir que constitue le bataillon de sécurité présidentielle, chacun se rappellera le rôle que le bataillon de sécurité présidentielle a joué au Burkina récemment. Nous avons demandé simplement que cette unité qui est une unité au seul service du pouvoir soit intégrée dans le processus de l'armée nationale.
Les soutiens du président de la République pensent, eux, que le FNDI, avec ses préalables, veut les résultats du dialogue avant même qu'il ne soit entamé. Le président Mohamed Oul Abdelaziz, arrivé au pouvoir en 2008 par coup d'État, a été élu en 2009 et réélu en 2014. Il a né à son dernier mandat, comme le prévoit la Constitution. Le FNDI pose comme autre préalable à son entrée dans le dialogue l'engagement du chef de l'État à respecter les dispositions constitutionnelles limitant le nombre de mandats à 2. La prochaine élection présidentielle en Mauritanie aura lieu en 2019. Le débat sur la limitation des mandats n'est-il pas prématuré? Réponse de Maître Maroufa.
2019, c'est déjà arrivé. Les actes qui sont posés aujourd'hui par le président Aziz plutôt nous inspirent la crainte qu'il veuille toucher à l'intouchable.
Les partisans du pouvoir, eux, pensent que la question du nombre des mandats est constitutionnellement réglée. Abdallahi Oul Hormatallah.
La réforme de la Constitution en elle-même formule une réponse à cela. Le serment que le président de la République prononce au début de son mandat, en son sein, stipule une limitation des mandats. Donc la question ne se pose pas.
Brahim Dia, à Nouakchott, pour La Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.